Ado Écolo,
la planète face au micro.
Ado Écolo,
la planète face au micro.
La planète face au micro.
Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Mon Pays, sur l'émission Ado Écolo, la planète face au micro. Nous sommes les élèves du collège Vauquelin et on prend l'antenne.
Au programme, mauvaise nouvelle, mais pas que. Biodiversité, réchauffement climatique et interview exclusif sur notre bonne et très chère planète.
Commençons sans tarder avec le premier micro-trottoir sur le réchauffement climatique.
Qu'est-ce que vous pensez des impacts sur la biodiversité ?
Mais déjà, il y a de moins en moins d'animaux, il y a de plus en plus d'animaux qui sont en voie d'extinction et tout. Et ça pourrait être bientôt notre cas, donc voilà.
Ben, on ne le voit pas trop, parce que surtout parce que moi je vis en ville, mais quand on voit des reportages sur la télé, on voit que c'est quand même assez. On voit beaucoup de systèmes de biodiversité qui s'écroulent, et du coup, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais bon, nous on ne le voit pas, mais il faut quand même agir.
Pas forcément, il y a des espèces qui disparaissent et si elles existent, c'est pour une raison, et forcément, si elles disparaissent, ça va y avoir une rupture au moment dans le fonctionnement naturel. Mais après, d'exemples concrets,
il y a tout ce qui est sur l'Amazonie en ce moment qui a brûlé, toute la biodiversité qui se détruit petit à petit, les banquises et les espèces qui disparaissent. Ouais.
Là aussi, c'est toujours inquiétant puisque. Les enquêtes montrent qu'il y a moins de biodiversité qu'avant. Donc la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait ?
On sait déjà que les activités humaines, ça cause un gros problème au niveau des ressources naturelles. Donc tout ce qui est au niveau de la marée, des mers, des océans et aussi de la terre. Et sauf qu'on n'essaye pas d'arranger, comme on l'a dit avant. On n'essaye pas d'arranger parce qu'on, par exemple, en produisant du plastique ou alors en utilisant l'eau, on utilise encore plus les ressources et on les pollue encore plus.
Enfin, maintenant, il y a plusieurs études qui vont en ce sens que la biodiversité, elle est en train de s'effondrer. Et c'est clairement mis en relation avec le fait qu'il y a des pertes d'habitat liées au réchauffement climatique, etc. Donc, c'est assez grave, je pense, pour s'en préoccuper, pour aussi les générations comme vous, comme vos enfants qui arrivent derrière.
Qu'est-ce que vous pensez du changement climatique ?
Aïe, aïe, aïe. Panique générale.
C'est quand même l'une des problématiques majeures à l'heure actuelle.
Je trouve que c'est assez inquiétant parce que on voit clairement qu'il y a beaucoup de changements et c'est assez compliqué parce que beaucoup les citoyens ont beau prendre des initiatives mais le gouvernement il suit pas forcément, donc c'est à nous de faire le changement, donc c'est un peu stressant.
C'est quelque chose dont on doit s'occuper maintenant parce que ça va de mal en pis.
Ça reste une question de responsabilité, en fait. Et on doit tous prendre une certaine part dans le processus pour inverser ça. Voilà. Après, je...
Bonjour, qu'est-ce que vous pensez du changement climatique ?
Ça nous fait peur, ça nous inquiète. Ça, c'est sûr qu'on est très préoccupés. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, tout à fait. D'abord, je pense qu'il y a vraiment un changement climatique, parce que certains disent... que c'est normal, mais non, je ne pense pas. Donc c'est plutôt inquiétant, surtout pour vous, les jeunes.
Le changement climatique, c'est très dangereux pour l'avenir de la planète. Et les industries et tous les États, ils ne savent pas ce qu'ils font, car d'ici quelques années, il risque de plus y avoir beaucoup de ressources naturelles et énergétiques pour les futures générations, et même pour nous, les enfants, qui sont déjà présents.
Je pense que c'est très grave et qu'il faut vite agir et qu'il faut vite trouver des solutions.
Et vous en pensez quoi ?
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, il faut agir, il ne faut pas laisser la planète comme ça et voilà quoi.
Et tout de suite, mettons la planète face à notre micro avec Youssef et Sophia.
Nos actions au quotidien. La Terre est en danger, nous devons l'aider. Pour cela, nous proposons de vous aider. Des conseils, alors il faut bien écouter. La Terre est en danger. Et on doit l'aider. Tu es d'accord ? Elle nous a donné sa peau pour vivre dessus. Mais après, nous l'avons rendue malade. Heureusement, il y a des médecins parmi nous. Et aujourd'hui, on va vous faire passer votre doctorat terrien. Je vais me rendre dans mon cabinet médical. Et on va ausculter la Terre. Bonjour, madame. La Terre ?
Bonjour.
Vous venez pour quelle raison ?
Voyons, je suis malade. Et j'ai peur d'être en fin de vie.
Ok, je vais vous demander de monter sur le lit d'examination. Le lit, quoi.
Pas de problème.
Alors là, depuis 30 ans de carrière, j'ai jamais vu une personne autant mal en point.
Bah merci, vous me rassurez.
Bah je vous dis juste ce que je constate. Bon alors, il me faut une feuille à trois pour faire l'ordonnance. Je vous prescris un arrêt complet à vie de plastique, une vie avec du recyclage, mais en triant dans les bonnes poubelles.
Mais comment faire ça?
De 1, pour l'arrêt du plastique, il faut commencer à arrêter d'acheter trop de produits avec des emballages papier ou plastique.
C'est tout? Et comment faire une vie avec du recyclage? Je dois me mettre à tous ces trucs verts machin chose bidule.
Parlez mieux du recyclage, car il vous sauve. Pour recycler, il faut respecter la couleur des poubelles. La bleue pour le papier, la vert pour le verre, la grise pour les déchets organiques, la jaune pour le métal, la rouge pour l'électronique et la orange pour le plastique.
Merci pour ces conseils. Je donnerai ce message à ses habitants. Et je donnerai un doctorat terrien à chaque fois qu'on me soignera. Alors moi, il y a un truc qui me tient à cœur. C'est le réchauffement climatique. 97% des scientifiques estiment que le réchauffement climatique est à cause des activités humaines.
Comment ça marche? Pour les personnes qui aiment beaucoup comprendre avec une explication scientifique, quel est l'impact de l'homme sur le climat?
Lorsque la Terre est éclairée par le soleil, la Terre rejette une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le CO2, le CH4, le N2O, retiennent une partie de ces rayonnements à infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui cause le réchauffement climatique.
En gros, notre couche de protection, la couche d'ozone, est trouée comme les nouveaux jeans à la mode.
À cause de cela, nos pôles fondent dans l'arme. Cela explique la montée des eaux. Au pire, si on fait rien, on risque en 2030 une montée des eaux de 2 mètres de haut.
Merci pour ces explications. En tout cas, maintenant j'en sais plus sur le réchauffement climatique.
Merci. Maintenant on écoute Nekfeu et Vanessa Paradis. A tout de suite sur Radio Mon Pays.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'attends par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant, dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune ne sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme entier. Quand la lune dort, le soleil nuit, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
C'était Dans l'univers de Nekfeu et Vanessa Paradis. Vous écoutez Ado Écolo, la planète face au micro sur 90.1. Maintenant, écoutons les gens dans la rue nous donner des solutions pour la planète.
Et au niveau global, comment pourrions-nous agir pour la planète?
Déjà, il faudrait que tout le monde s'y mette.
tout le monde. Déjà, ceux qui sont tout là-haut, là, à Paris, qui fassent un peu les choses. Parce que nous seuls, on ne peut rien faire. On n'est pas assez nombreux pour prendre conscience de ce qui se passe sur la planète. Il faut que ça change, mais il faut qu'on soit très très nombreux. Et on ne l'est pas. Personne n'est conscient de ce qui arrive.
Alors, ça ne sert à rien que tout le monde fasse un petit truc parce que ça ne changera rien. Mais il faut que les grandes sociétés comme Google, c'est le plus grand pollueur de la Terre, je crois. Et il y a 5 bateaux qui produisent plus de la moitié de la pollution de la Terre. Donc il faut supprimer ça, voilà.
Et aussi, par exemple, les élevages industriels et tout ça, il faudrait arrêter. Il faudrait penser à un mode de production plus respectueux de l'environnement et moins intensif.
Ben déjà, il faudrait beaucoup moins de voitures à essence et à diesel parce que ça pollue beaucoup. Et il faudrait beaucoup plus utiliser les énergies renouvelables.
Ça, c'est pas de mon ressort. Je vais laisser Macron et les hommes politiques faire. Moi, je sais pas du tout. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout.
Bah, c'est au gouvernement d'agir. Hein. Nous, on peut que trier, essayer de pas polluer, mais nous, on peut pas agir. C'est plus l'État ou les États dans le monde qui peuvent agir, vu qu'ils ont déjà beaucoup plus d'argent que nous et que c'est eux qui ont les décisions lors de conférences, par exemple.
Et au niveau global, comment pourrions-nous agir pour la planète ?
Bah, je pense que c'est une question intéressante que tu poses parce que nous, tous les petits gestes qu'on peut faire, ils sont importants, mais s'il n'y a pas une politique globale et si les États ne font pas, n'interviennent pas plus sur cette question, nos petits gestes quotidiens, ils vont un peu jouer, mais pas suffisamment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait, je pense, que il y ait plus de réglementation sur les voitures, sur les essences.
Si on pense que ça peut avoir un effet, voter pour des partis politiques qui défendent, mais il faut trouver quel parti défende cette ligne politique, ou également s'engager dans des associations. Mais il faut toujours trouver là aussi l'association. Souvent, elles ciblent un objectif. Donc si on veut qu'il y ait des résultats globaux, il faut une politique globale.
Essayer d'appuyer certaines politiques du type transport en commun dans les villes, moins de voitures, voilà, des choses qui auront vraiment un effet important collectivement.
Nous laissons maintenant la parole à Amat, Myrti, Nia et Basile.
Bonjour, cette chronique est basée sur l'extinction des espèces animales et pour commencer, je vais vous présenter les invités pour cette chronique. Et on commence avec Myrti, habitante de la planète Mars.
Bonjour, je viens d'arriver sur Terre et je me demande pourquoi j'ai vu aucun animal à part des pigeons.
Eh bien, c'est Nia, notre deuxième invitée, qui va vous répondre.
Le manque d'animaux sur cette Terre, ma chère Myrti, est dû à l'agriculture intensive, la surpêche, la pollution ou encore les espèces invasives. Mais moi, j'ai une autre question. Quelles espèces sont éteintes ou menacées ?
C'est une question pour notre spécialiste animalier, Basile.
Eh bien, les espèces éteintes récemment sont les pumas du Nord-Est américains en 2017. La cause, braconniers, éleveurs, inquiets de voir leur bétail tué par des pumas, destruction de leur habitat et chasse légale. Mais ils se faisaient également percuter sur les routes. Il y a aussi la tortue géante de l'île Pinta, disparue en 2012. Mais la plus récente des trois cités et la plus triste est le dernier mâle rhinocéros blanc, décédé en 2018 dans la réserve d'Olpegeta, une sous-espèce disparue à cause des braconniers, qui a fait pleurer le monde entier et m'a fait pleurer personnellement.
Et pour les espèces en voie de disparition ?
Eh bien, nous avons les animaux du grand froid, comme l'ours polaire, dont il reste seulement 26 000 individus. Il y a aussi 22 espèces d'oiseaux menacées.
C'est tout ?
Non, malheureusement, il y a aussi les requins. En 15 ans, la population de requins a diminué de 80%. Puis, restons dans l'eau, le Napoléon, le dauphin de l'Irrawaddy, et à l'extérieur, sur les terres, le tigre du Bengale, l'éléphant d'Asie, le gorille, le panda géant, la tortue à nez de cochon, et encore plein d'autres, mais je n'ai pas le temps de toutes les citer.
Merci à tous les trois.
C'était Ado Écolo, la planète face au micro, l'instant animal.
Merci, nous recevons maintenant dans notre studio Monique des Amis de la Terre. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et quel rôle avez-vous dans l'association ?
Bonjour, donc je m'appelle Monique Hervé et je suis coprésidente des Amis de la Terre de Midi-Pyrénées. Coprésidente parce qu'en fait il y a deux autres coprésidents, nous sommes trois à partager cette responsabilité. Tout simplement parce que dans les associations, souvent il est difficile de trouver les bénévoles pour s'impliquer suffisamment. Donc moi, en ce qui me concerne, parce que par goût personnel, je suis graphiste amateur, mais avec plaisir depuis fort longtemps. Donc c'est moi qui suis responsable du journal des Amis de la Terre, de sa mise en page, des maquettes. Moi, je reçois des articles bruts qui ont été relus par notre relectrice, qui a éliminé les fautes d'orthographe, les fautes de français. Et moi, je suis celle qui choisit les illustrations. Le but, c'est que les articles soient plus sympathiques à lire, plus intéressants, plus lisibles, et peut-être un peu plus drôle, parce qu'il n'y a pas de raison pour être triste, parce qu'on parle d'écologie, au contraire, c'est un enjeu intéressant. Voilà.
Pouvez-vous nous présenter votre association Les Amis de la Terre et quel est le but ?
Alors, Les Amis de la Terre. Pour la présenter, d'abord, il faut dire que Les Amis de la Terre, ça a commencé en 1969 aux États-Unis. Donc le mouvement en anglais s'appelle Friends of the Earth, Earth voulant dire la Terre, avec un E majuscule comme nous, Terre, quand on parle de la planète et non pas de la Terre qu'on peut toucher avec nos doigts. Et ce mouvement a commencé en 1969 autour d'un monsieur qui aimait beaucoup la montagne, qui faisait de la montagne, qui faisait de l'escalade. Et plus il faisait de montagne, d'escalade et de randonnée, plus il se rendait compte qu'il voyait des déchets, des animaux qui disparaissaient. Et il voyait déjà en 1969, ça commence à faire, ça fait plus de 50 ans, il s'est aperçu qu'il y avait des choses qui clochaient, des animaux qui voyaient moins, de la neige qui était moins épaisse, des glaciers qui régressaient évidemment. Donc c'est sa pratique de montagne en fait, de randonneur en montagne qui a fait qu'il s'est intéressé à l'environnement et qu'il a découvert que l'environnement se portait mal. Et de ce mouvement américain, ou à l'origine en 1969, immédiatement le mouvement devient international et se fonde un petit peu partout dans le monde. Et donc il y a une très grande rencontre à Londres en 1971 qui fonde les Amis de la Terre international. Et à ce moment-là, les Amis de la Terre France se fondent aussi en 1972 quand l'ONU a reconnu les Amis de la Terre comme une ONG, une organisation non gouvernementale, et que l'on a donc pu de ce fait participer à la grande conférence de Stockholm, qui était une conférence sur l'environnement, qui elle s'est tenue aussi en 1972. Donc vous voyez, c'est pas que vrai maintenant qu'on se préoccupe du climat, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et donc les Amis de la Terre France sont présents dans 77 pays, plus ou moins francophones, et on existe depuis 50 ans. Donc voilà, je vous ai amené une plaquette ici, qui reprend les campagnes sur lesquelles on a travaillé, et notre slogan qui est « mobiliser, résister et transformer ». Mobiliser, c'est-à-dire alerter les citoyens, les faire participer, parce que chacun de nous peut agir. Beaucoup de personnes dans les micro-trottoirs, ça me frappe, disent « oui, c'est pas à nous d'agir, c'est au gouvernement d'agir », ou bien d'autres personnes disent « moi, je dois faire ceci, je dois faire cela ». Mais en fait, on doit tous faire quelque chose. Si moi, toute seule dans mon coin, je fais quelque chose, ça sert à rien. Si le gouvernement, tout seul dans son coin, fait quelque chose, ça ne sert à rien. On doit tous faire quelque chose. Donc les élus doivent assumer leur rôle d'élu, de décision et de réglementer tout ce qui est autour du climat. Mais moi, dans ma vie quotidienne, je dois aussi agir, chacun de nous, les petits, les vieux, tout le monde, toutes les classes. Voilà, donc je vous ai amené ça. Si ça vous voulez, à la fin de l'émission, vous pourrez regarder ceci. Et donc, les Amis de la Terre en Midi-Pyrénées, on a gardé notre nom Midi-Pyrénées, même si la région s'appelle maintenant Occitanie. Donc, ça concerne toute l'Occitanie. Mais c'est vrai que les militants, nous sommes essentiellement basés sur Toulouse, mais nous rendons compte de toutes les activités qui ont lieu sur ce grand territoire, du mieux que nous pouvons, bien sûr. Voilà, donc au total, nous avons 250 adhérents en Midi-Pyrénées, et en France, nous avons 40 groupes locaux dans différentes régions de France. Voilà, pour les Amis de la Terre.
Donc. Et quand et pourquoi avoir créé cette association ?
Alors, pourquoi on l'a créé ? Il y avait un contexte, en fait. Le contexte des années 50... À l'origine, les premiers écologistes commencent dans les années 50, ça date pour vous, ça fait très loin tout ça, ça fait 70 ans, c'est dire. Donc dans les années 50, c'est ce qu'on appelle la guerre froide. Donc le monde à cette époque-là a connu un truc épouvantable qui a été les bombes atomiques qui ont été lâchées au Japon sur Hiroshima et Nagasaki. Et en même temps, s'est développée en même temps une énergie civile. C'est-à-dire le nucléaire utilisé non pas pour tuer d'autres personnes, mais pour produire de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité. Et donc déjà dans les années 50, se commence dans le cadre de cette guerre froide, une opposition à une utilisation du nucléaire, qu'il soit militaire ou qu'il soit civil pour l'énergie. Et également dans les années 60, il y a un autre phénomène, c'est qu'on veut nourrir toute la planète, les humains vivent plus longtemps, la démographie est importante, et il y a des grands problèmes de famine de par le monde, et il y a ce qu'on appelle les révolutions vertes. C'était l'idée qu'il fallait une agriculture très productiviste qui donne beaucoup à manger à beaucoup de gens. Donc on était très heureux, très fiers d'utiliser tous ces produits qui ont permis à tout le monde de se nourrir plus. En fait, c'est plutôt les pays occidentaux qui se sont nourris mieux. Et les écarts nord-sud entre les pays en voie de développement et les pays riches, c'est accru, au plus ou moins. Dans le contexte européen, c'est le rapport du Club de Rome en 1972. Peut-être que vous étudierez ça en histoire avec vos professeurs d'histoire. Le Club de Rome, c'est un groupe d'économistes de penseurs, de philosophes et d'industriels qui se sont réunis à partir de 1968 et qui ont réfléchi à l'état de la planète. Ils ont sorti un rapport, ils ont écrit toutes leurs conclusions. Et dans leurs conclusions, il y avait qu'on allait vers une catastrophe écologique parce que la planète est limitée. C'est-à-dire, la planète, elle n'est pas infinie. Elle ne s'agrandit pas au fur et à mesure que nous, on décide qu'on veut de plus en plus de choses. Et comme par hasard, les Amis de la Terre se sont fondés en 1972 aussi.
Que pensez-vous du réchauffement climatique et des impacts sur la biodiversité ?
Alors, le réchauffement climatique, on le sait maintenant, le réchauffement climatique est le résultat des activités humaines sans contrôle. C'est un flux d'activités humaines de plus en plus important et que nous ne contrôlons pas. Nous ne le contrôlons pas, pas parce qu'on ne le peut pas, mais parce qu'on ne le veut pas. On peut contrôler les activités humaines, c'est des décisions collectives que nous devons prendre, ce sont des réglementations à mettre en place pour limiter ou pour donner les conditions dans lesquelles nous produisons. Il faut se rappeler que bio, ça veut dire la vie. Biodiversité, c'est la diversité de la vie. Et la vie, c'est plein de choses. C'est pas que les animaux. La vie, c'est les langues. Par exemple, toutes les langues qui existent sur la planète, toute la diversité des langues, c'est toutes les cultures, c'est toutes sortes de modes de vie, c'est toutes sortes de systèmes politiques. Il y a plein de systèmes politiques qui définissent la façon de vivre ensemble, ce genre de choses. Et donc, tout ça, c'est cette biodiversité. Il y a évidemment les animaux, les plantes, tout ça en fait partie. Et donc, tout ça, c'est un système du vivant dans lequel nous sommes, nous, et qui doit être réfléchi ensemble. On ne doit pas réfléchir que les plantes et les animaux, les humains séparément, et des systèmes politiques, par exemple, ou bien des systèmes de production séparément. C'est un tout. C'est pour ça que c'est compliqué, l'écologie, c'est cette manière de réfléchir qui est extrêmement globale, qui rend la chose, le sujet, un peu écrasant. Mais il ne faut pas le prendre comme ça, il faut se dire, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut que je me jette dans tout ce que j'apprends au collège, au lycée, à la fac, parce que ça m'aide à comprendre, ça m'aide à réfléchir. C'est une sorte de défi, c'est bien. On a envie de le grignoter, de l'apprendre, de le prendre, de le saisir, quoi. Peut-être que vous avez entendu parler de la justice sociale et de la justice écologique. C'est peut-être des mots que vous avez entendus. Il faut comprendre que les deux vont ensemble. C'est très important. L'un ne va pas contre l'autre. Il faut les deux. On ne fait pas de justice écologique. Un des mots, un petit slogan que vous avez dû entendre, on appelait ça la fin du monde. La justice, la question de l'écologie. Comme si le monde devait se finir là tout de suite et maintenant, mais ça n'est pas le cas. Le monde, il va durer encore un certain temps. Par contre, la question, c'est comment on va vivre dans ce monde-là, dans quelles conditions ? Au mieux, au plus mal. Et la justice sociale, c'est la notion de fin du mois. Qu'est-ce que c'est la fin du mois ? C'est quand je m'inquiète de savoir est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, payer mes factures, faire les courses pour mes enfants, les amener à l'école, etc. Donc ça, c'est la fin du mois. C'est pour ça que vous avez dû voir dans des manifestations, des slogans où il y avait marqué « fin du mois et fin du monde, même combat », par exemple. C'était pour dire « les deux vont ensemble ». Nous, tous humains, on a la responsabilité de travailler dans les deux sens. Voilà.
Et c'est quoi la transition écologique ?
La transition écologique, c'est important. Ce qui est important dans le mot transition écologique, c'est l'idée de transition. Ça veut dire que les changements qu'il faut qu'on opère, on ne peut pas continuer à vivre comme on vit maintenant. On ne peut pas continuer à gâcher nos ressources. On ne peut pas continuer à produire des déchets toujours plus de cette façon-là. Donc il faut qu'on change nos manières de vivre, nos manières de produire, nos manières de nous déplacer. Mais on ne va pas pouvoir le faire comme ça du jour au lendemain en une seconde. Et donc la transition, c'est l'idée qu'il va falloir des solutions provisoires intermédiaire pour arriver progressivement à une autre façon de vivre, au mieux, dans une justice pour tous et en satisfaisant les besoins pour tous. Voilà. C'est l'idée que, localement, les sociétés se réorganisent et s'adaptent parce que, par solidarité, ça, sur des principes de solidarité.
Est-ce que les impacts climatiques accentuent, selon vous, les inégalités ?
Ah ça, alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire les personnes les plus précarisées sont les personnes les plus exposées au risque climatique. C'est-à-dire on peut toujours penser que les personnes les plus riches de la planète, les plus grands financiers de la planète, par exemple, se disent que bon, bah, s'il y a un réchauffement climatique, c'est pas grave, ils iront plus loin dans leur petite maison, quelque part au fin fond du Nil. Ils sont dans l'illusion qu'ils pourront survivre tout seuls en se protégeant tout seuls, par exemple. Mais par exemple, on voit bien en Californie, qui est l'État le plus riche des États-Unis actuellement, quand il y a des incendies énormes, des incendies de forêt qui durent pendant des semaines, des énormes villas, des grandes vedettes d'Hollywood qui ont un fric fou, elles brûlent comme les autres. Les incendies, ça brûle tout, hein. Donc c'est pas ça qui sauvera davantage les personnes. Quant aux personnes les plus précarisées, c'est elles certainement qui sont en difficulté le plus, tout simplement parce que Elles sont amenées à avoir, par exemple, on dit des passoires énergétiques. Elles vivent dans des maisons qui coûtent moins cher ou des appartements qui coûtent moins cher et qui sont mal isolés, par exemple. Donc ça veut dire qu'au total, en fin de mois, quand ils doivent payer la facture du chauffage, elle est énorme. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se nourrir pas très bien parce que ça sera moins cher. Et comme c'est moins cher, c'est qu'il n'y a qu'à ça qu'ils pourront accéder. Donc ça fera ce qu'on appelle la malbouffe. On ira dans la malbouffe. Donc oui, bien sûr, il y a un lien entre les inégalités sociales et puis les questions écologiques. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Pourquoi pensez-vous qu'il y a toujours des climato-sceptiques aujourd'hui ?
Alors ça, c'est difficile à dire. Par contre, je voudrais dire qu'à mon avis, il y en a beaucoup moins. Il y en a eu beaucoup à un moment, il y a une vingtaine d'années. Même au tout début, quand le Club de Rome a sorti son rapport, par exemple, il y en avait beaucoup à cette époque-là, parce que c'était une question qui était toute nouvelle. Les gens n'arrivaient pas à le croire. Ils étaient tellement sûrs qu'on pouvait, sur la planète, faire ce qu'on voulait quand on voulait, qu'ils ne pouvaient pas imaginer que ça puisse se limiter. Le fait que la planète est limitée et qu'on ne peut pas être en croissance permanente, en vitesse de plus en plus grande, etc., ça, maintenant, c'est beaucoup moins remis en cause. Alors, c'est remis en cause soit par des personnes qui ne comprennent pas du tout les questions d'écologie parce qu'elles sont extrêmement globales, et donc ça leur est difficile de comprendre la globalité du problème climatique par rapport à ce qu'ils vivent localement. On peut trouver des personnes qui disent « Oh, le réchauffement climatique, c'est bien !» Mais bon, on peut penser qu'ils se trompent et qu'ils n'ont pas mesuré ce que c'est qu'un désastre climatique jusqu'au bout. Maintenant, il y a des climato-sceptiques qui sont simplement des gens malhonnêtes, purement et simplement, dont on sait qu'ils ont été plus ou moins payés par des multinationales qui ont intérêt à maintenir un système tel qu'il est. On peut citer des entreprises comme Monsanto, par exemple, qui produit l'agent orange qui a défolié les jungles et les forêts du Vietnam et qui continue à produire les herbicides actuels. Ça, c'est une de ces grosses firmes. Bon. Et qui a entretenu le fait que, non, le produit que je fabrique n'est absolument pas dangereux, en dépit de tous les rapports scientifiques sur la santé publique, etc. Donc il y a des climato-sceptiques qui sont des gens dans la malhonnêteté, qu'on trouve plutôt du côté des scientifiques, de quelques scientifiques, ou de quelques hommes politiques éventuellement. Je dis quelques parce qu'ils sont devenus moins nombreux. Ils sont tellement peu crédibles que, progressivement, ça fonctionne moins. Parce que tous les citoyens, vous regardez autour de cette table comme vous savez beaucoup plus de choses. Vous, maintenant, là, actuellement, vous avez conscience de beaucoup plus de choses que des gens en 1972, quand ils ont découvert le rapport du Club de Rome. Donc, plus la connaissance progresse, plus l'ignorance régresse. Et l'ignorance, c'est la mère de toutes les catastrophes, de toutes les tyrannies, et peut-être d'un climato-scepticisme. Moi, je pense qu'il est en train de reculer, quand même, mine de rien. Même s'il existe, ben, c'est à chacun de nous d'être le vecteur d'une contre-propagande du climato-scepticisme. Voilà.
Quelle action concrète menez-vous en tant qu'association ?
Alors ça, oui, je vous ai fait une petite liste. Donc, nous, on fait d'abord des réunions publiques pour essayer de mobiliser les gens. Par exemple, récemment, nous avons fait une réunion sur les trains parce qu'on pense que c'est beaucoup mieux. C'est pas on pense, nous savons que se déplacer en train et de transporter du fret, du matériel, des marchandises par train, c'est beaucoup moins coûteux pour l'écologie que de les transporter par camion, par voiture, etc. Or, les trains, il y a de moins en moins de trains de nuit. Plus il y aura de trains de nuit, ça permet d'aller à Paris, d'aller à Berlin ou d'aller à Rome en dormant dans le train. C'est commode, c'est confortable et écologiquement, c'est le mieux. Et ça, c'est ce qui dégage le moins de CO2 et de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, nous défendons les trains. Donc, régulièrement, nous avons fait des réunions là-dessus et nous avons soutenu toutes les associations qui se sont montées pour défendre les trains. On fournit des expertises, des analyses pour convaincre les gens qu'il faut laisser ces trains. Donc, nous avons fait une réunion publique où on a invité les associations qui défendent ça, un syndicaliste de la CGT cheminot qui expliquait lui de l'intérieur, puisqu'il le vit en tant que cheminot au sein de la SNCF, pour entendre toutes les approches, l'approche sociale, syndicale, l'approche des associations, l'approche citoyenne. Donc ça, c'est des actions concrètes, par exemple. Et nous, associations à beaucoup d'autres personnes, comme ATAC, les Amis du Monde Diplomatique, l'Université Populaire de Toulouse, pour diffuser nos idées au maximum dans le plus d'endroits possible. On utilise l'argent de nos adhérents également pour beaucoup d'actions juridiques. Donc ça veut dire qu'on va au tribunal pour dénoncer des projets contre lesquels nous nous élevons. Actuellement, nous nous sommes engagés pour défendre par exemple la LMSE, la liaison multimodale sud-est, qui se trouve au niveau de la fac Paul Sabatier, au sud de la ville, et qui devait rester aux piétons et aux vélos. Et le maire de Toulouse a décidé que ça serait ouvert aux voitures. Donc on dit non, il faut que les piétons et les cyclistes soient prioritaires sur cette liaison multimodale. Donc on a tous un rôle, c'est important aussi de vous dire ça. On a tous un rôle différent. Donc moi c'est vrai que je ne vais pas rester perché dans une cabane toute la nuit. Non, c'est vrai, je ne vais pas le faire. Parce que je vais avoir du mal à monter jusqu'en haut peut-être, tout simplement. Mais il faut le faire, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. toutes ces actions-là, il faut les faire. Il faut faire cette action-là. Elles sont pas, elles sont différentes, mais en fait, elles convergent. Elles convergent vers un même but. C'est ça qui compte. Et nous, on va plutôt faire les actions juridiques. On va monter le dossier pour mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher que se fasse l'irréparable, si possible. En fait, on a été comme David et Goliath. C'est-à-dire, nous, on a le petit lance-pierre, on a un grand géant, puis avec nos petits lance-pierres, on envoie plein de petits cailloux tout le temps, comme ça. Puis on essaie de les arrêter tant qu'on peut. Bon, c'est pas la grande révolution, c'est sûr, du jour au lendemain, mais bon, à nous tous, on va y arriver. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est des actions concrètes. D'autres actions concrètes qui sont un petit peu pénibles, mais qu'il faut quand même faire, c'est que nous participons à toutes sortes de commissions institutionnelles. Ça veut dire qu'on fait les commissions qui ont lieu à la préfecture. Alors moi, par exemple, je suis celle sur la qualité de l'air. C'est-à-dire toutes les personnes qui vivent en bordure de rocade. Il y en a une autre sur les déchets, par exemple, les risques industriels et chimiques. Donc il y a une autre militante qui est spécialiste des risques industriels et chimiques. Et sinon, nous sommes actifs dans toutes sortes de collectifs. On est actif dans le collectif Citoyens pour le Climat. On est actif dans le collectif Sortir du nucléaire. Quand on dit un collectif, ça veut dire qu'on met ensemble nos forces à plusieurs associations, parce qu'à nous tous, on sera plus intelligents. Même si ça prend du temps, parce qu'il faut discuter, on n'est pas toujours d'accord, ça c'est sûr. Mais l'un dans l'autre, au total, on s'en sort grandi, en quelque sorte. Donc on participe à tous ces collectifs. Au niveau plus global, par exemple, les Amis de la Terre France sont engagés dans des grosses opérations contre Amazon. Par exemple, les Amis de la Terre ont ramené tout le matériel qui ne marche plus d'Amazon, parce que le matériel qui est vendu par Amazon, c'est juste un vendeur. Amazon, il ne les fabrique pas, lui, il est juste un intermédiaire. C'est juste un commerçant au niveau planétaire. Il sert juste d'intermédiaire, mais sauf qu'il ne récupère pas ce qui ne marche pas, il ne répare pas, il ne recycle pas. Donc, on va entasser plus de déchets. Donc, les Amis de la Terre ont fait une opération où j'ai rigolote. Ils ont fait une montagne de déchets devant la porte d'Amazon, tout simplement. Donc, ils ont bloqué la porte d'entrée d'Amazon, d'un gros dépôt en région parisienne, en ramenant tous les bazars qui marchaient plus, les machines à laver, les ordinateurs, les portables, tous ces bidules qu'on ne peut pas réparer, qui sont des sortes de boîtes noires et qui font des déchets supplémentaires catastrophiques qu'on va aller entasser n'importe où dans un dépotoir. Voilà. Par exemple, pour Amazon, les Amis de la Terre font une campagne, j'ai vu que vous avez pris la plaquette là, qui est passée un instant, concernant l'huile de palme, qui est verte, c'est là. L'huile de palme, qu'on récupère des palmiers à huile, en général en Indonésie. Et ces palmiers à huile, pour pouvoir les récupérer, ça veut dire qu'on coupe les arbres. En coupant les arbres, ça veut dire qu'on empêche les villageois qui vivaient dans ces forêts, qui utilisent tout dans la forêt. Ils mangent, ils se nourrissent, ils trouvent des animaux pour manger, c'est leur vie, c'est tout leur milieu de vie. Donc on leur coupe leurs arbres et on leur coupe tout leur milieu de vie. Donc bien sûr, les orang-outans qui vivent dans ces forêts indonésiennes, par exemple, disparaissent. Donc ça, c'est la biodiversité animale. Mais sauf que l'humain fait partie de cette biodiversité. Ces personnes ont des modes de vie qui ne sont pas le mien. Ils pensent sûrement différemment de moi, mais ils ont leur vie. Et cette vie, elle est totalement respectable. Elle doit être respectée. C'est la dignité humaine que de la respecter. Et en prenant toujours cette huile de palme, on les empêche de vivre dans leur milieu de vie à eux, qui est le leur, avec leur culture à eux. Donc on s'oppose à cette utilisation de l'huile de palme pour faire de ce qu'on appelle des biocarburants, qui ne sont pas bio du tout, qui sont des carburants qui détruisent la planète.
Merci beaucoup Monique d'avoir répondu à nos questions. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Tout le bonheur du monde de Saint-Similia. On se retrouve juste après.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix,
de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur.
De retour sur Radio Mon Pays, vous écoutez Ado Écolo et pour la suite, les jeunes pour le climat.
Les jeunes pour le climat.
Encouragés par Greta Thunberg, partout dans le monde, des milliers d'étudiants manifestent pour le climat. Qu'en pensez-vous ?
Pour moi, la marche des jeunes pour le climat est plutôt intéressante, mais elle n'est pas prise au sérieux par le gouvernement, donc au final, ce n'est pas très utile.
C'est un début de prise de conscience, pour moi, de la population pour que le gouvernement agisse.
Oui, sauf qu'en soi, marcher dans la rue, ça ne réglera pas les problèmes climatiques. Pour moi, il faut faire des actions bien plus concrètes.
Mais pour vous, c'est quoi une action plus concrète ?
Par exemple, lors d'une manifestation à Paris, 140 étudiants bloquent le siège de la Société Générale, et ça, pour moi, c'est une action assez concrète.
Je suis d'accord, mais il faudrait quand même que ça soit à l'échelle nationale.
Du coup, qu'en pensent les jeunes pour le climat ?
Dans le studio, pour nous en parler un peu mieux, Emma. Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Emma Temporel, je suis en classe de première générale au lycée Ozen. J'ai 16 ans et je fais partie du collectif Youth for Climate.
C'est quoi le mouvement Youth for Climate ?
Alors, Youth for Climate, c'est un collectif qui existe depuis presque un an suite à la première qui s'est créée à un niveau d'abord national, puis local, dans beaucoup de villes de France, suite à la première marche mondiale pour le climat, qui était en mars de l'année dernière, et qui suit un peu les convictions qui ont été lancées par des... enfin, qui ont été démontrées au public par des personnalités comme par exemple Greta Thunberg et le mouvement Fridays for Future.
Quand est-ce que le mouvement a été fondé ?
Donc, c'était il y a à peu près 9 mois, celui de Youth for Climate, mais après, ça fait quasiment un an que... les jeunes se mobilisent pour le climat, d'abord dans les pays plus du Nord, comme la Suède.
Quel rôle avez-vous dans le mouvement ?
Alors, la plupart des membres de Youth for Climate, on est relativement polyvalents. On fait beaucoup d'activités selon les actions qu'on mène. Moi, sur les marches, entre autres, je suis généralement du ce qu'on appelle le service d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine, en général, de personnes qui s'occupent de la sécurité du cortège. Par exemple, il s'agirait de bloquer les rues qui sont perpendiculaires à celles qu'on suit pendant la marche pour pas qu'il y ait de voitures qui arrivent, de s'assurer que le cortège soit bien un seul bloc et qu'il n'y ait pas plusieurs petits groupes qui passent les uns devant les autres, qu'il n'y en ait pas qui soient derrière à la traîne pour qu'il n'y ait pas d'autres, enfin, qu'il y ait de black blocs ou quoi qui viennent casser par le derrière de la marche. Donc on a des membres du service d'ordre en tête de cortège, d'autres intersections et d'autres en queue de marche.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de lutter pour le climat ?
Alors, quand j'ai commencé à m'engager auprès du Youth for Climate, c'était à la suite de la première marche pour le climat que j'avais faite et que j'avais trouvé que, en fait, nous aussi, les jeunes, on peut être écoutés par le gouvernement pour le climat. On peut être écoutés parce qu'il y a eu beaucoup d'articles de journaux, il y a eu des radios, il y a eu la télé. Il y a beaucoup de monde qui en avait parlé, surtout à la première. Et il y a des personnalités qui ont été... on a eu beaucoup d'interviews dans Youth for Climate pendant la première marche. Et c'est pour ça que j'ai décidé que moi aussi, je pouvais agir.
Comment avez-vous rejoint le mouvement ?
Je l'ai rejoint parce que j'avais un ami qui était déjà membre et je lui ai demandé tout simplement quand est-ce que c'est la prochaine réunion, est-ce que je peux venir, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois signer ou quoi que ce soit, et ça s'est fait et j'ai rejoint le serveur Discord où on s'organise, les groupes sur les réseaux sociaux où on en parle Et j'ai commencé à venir aux réunions et à m'engager, et voilà.
Comme on l'a mentionné, Greta Thunberg fait partie des grandes figures de votre mouvement. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors Greta Thunberg, elle a un discours qui résume un petit peu les pensées de la plupart des collectifs engagés pour le climat. Et ce qui est intéressant chez Greta Thunberg, c'est qu'elle a réussi à monter dans des grandes instances, enfin à être entendue dans des grandes instances comme l'ONU, où ben on pouvait pas forcément imaginer qu'un jeune de 16 ans pouvait être entendu sur la question climatique, parce que au tout début du mouvement, il y en avait beaucoup qui croyaient pas. Déjà, il y avait les climato-sceptiques qui mettaient un peu des bâtons dans les roues de Youth for Climate et qui disaient que ça servait pas à grand chose parce que le réchauffement climatique, il existait pas vraiment. Puis ensuite, il y en avait qui disaient que les jeunes, ils pouvaient rien changer parce que ils avaient pas leur mot à dire, ils travaillent pas, tout ça. Donc, c'est pas eux de décider, c'est au gouvernement de faire. Et au final, si les jeunes se mobilisent et font parler d'eux, c'est comme ça que un peu tout le monde peut comprendre qu'il peut se mobiliser et que c'est pas juste certaines personnes. C'est tout le monde peut agir pour le climat.
Pourquoi avoir choisi la manifestation comme mode d'action ?
Alors la manifestation, c'est un premier moyen de se faire connaître, tout simple déjà. Parce que quand il y a, par exemple, à Toulouse, 4500 personnes qui marchent dans les rues pour le climat et pour se faire entendre auprès des grandes instances, auprès du gouvernement, ça impressionne parce qu'on est... On est nombreux au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas juste 2-3 personnes dans chaque établissement, il n'y a pas juste ce que le national veut appeler maintenant les éco-délégués, qui sont un élève à peu près dans chaque classe de lycée, je ne sais pas s'il y en a au collège aussi. Et en fait, c'est tout le monde est concerné, tous les jeunes, maintenant on en entend parler et on peut s'engager. Et la manifestation, ça permet justement de montrer qu'on est là, qu'on se tait pas, qu'on agit pour le climat et qu'on veut que le mouvement suive, qu'on veut pas qu'il soit juste, donc on veut que les adultes aussi soient conscients de ça. On veut que le gouvernement nous entende, on veut un peu... c'est pour se faire connaître surtout. Et après, comme j'ai dit par exemple pour mon cas, on peut rejoindre le mouvement Youth for Climate suite à une manifestation, ça donne de la portée en fait. Quand on a fait une manifestation, après on se dit « Ah mais c'est vrai que... » Par exemple, je fais telle pratique et que bah, ça pollue, en fait, et que je pourrais changer ça.
En tant que lycéenne, est-ce que c'est un engagement au quotidien, du coup ?
Alors, dans ma vie, oui, bien sûr, parce que j'en parle autour de moi. Je parle à ma famille, à mes amis, je leur dis, regardez, ça existe, regardez, on peut faire autrement, on peut consommer plus intelligemment, on n'est pas obligé de tout le temps surconsommer, on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé par exemple de manger de la viande à tous les repas, on n'est pas obligé de beaucoup de choses qui ont un enjeu sur l'écologie. Donc c'est un engagement déjà par rapport à ça, par rapport au fait d'en parler. Et puis oui, c'est après les cours par exemple, je vais aller parfois à certaines réunions, ça va me prendre du temps, mais je sais que si je le fais, peut-être que d'autres le feront aussi, et plus on sera à le faire, mieux ce sera.
Quelles sont vos prochaines actions avec le mouvement ?
Alors avec le mouvement, tout d'abord on est en train de voter la date de la prochaine marche. La dernière c'était il y a 2 semaines à peu près. Et là on est en train de voter la prochaine qui sera dans quelques mois. Et sinon on a des actions un peu plus régulières, comme par exemple on a les nuits Lights Off. C'est pendant la nuit, certains membres de l'action avec d'autres personnes, si elles sont volontaires et... Elles vont aller dans les villes et éteindre les enseignes, en fait, devant certains magasins. Souvent, les enseignes restent allumées la nuit et ça consomme de l'énergie inutilement. Et c'est très facile de désactiver ces enseignes parce que souvent, en hauteur, il y a un bouton très facile à désactiver avec une perche et tout. Donc, on va faire ça, par exemple, certaines nuits. On va également faire des actions de sensibilisation dans les rues, sur des places, des mouvements, enfin, des endroits où il y a beaucoup de passages. Comme par exemple cet été sur la place du Capitole, il y avait une sorte de un die-in. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est quand beaucoup de personnes s'allongent dans les rues pour faire comme si elles étaient mortes. Donc ça avait été fait ça quand il y avait eu quand l'Amazonie est en train de brûler. Il y avait eu un die-in dans les villes. Il y en a eu plusieurs. On a aussi on est en train de mener d'autres actions dont je peux pas vraiment parler parce que le but c'est aussi parfois de surprendre pour que les gens ils sortent dans la rue, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, et après ils viennent se renseigner et ils voient qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Mais après oui, on a des actions qui se préparent là pour patienter avant la prochaine marche parce que c'est dans longtemps et on peut pas rester à rien faire en attendant et faire que manifester.
Merci Emma d'être venue répondre à nos questions. Et maintenant, quelques bonnes nouvelles pour la planète.
Salut !
Salut !
Ah, tu m'as déprimé, qu'est-ce que t'as?
Ben en fait, j'ai encore vu ce matin une espèce qui a disparu. Vous auriez pas une bonne nouvelle pour me remonter le moral?
Oui, t'inquiète, moi je vais t'en donner des bonnes nouvelles. Tu sais qu'aux Philippines, il y a une nouvelle loi qui vient d'être créée. Tous les élèves des écoles du pays devront chaque an planter 10 arbres afin d'obtenir leur diplôme, avec 75% de la surface forestière nationale ayant disparu au XXe siècle. Le pays fait partie des plus touchés par la déforestation. 17,5 millions d'élèves pourront ainsi planter chaque année 75 millions d'arbres.
Mais si, moi aussi j'ai entendu une bonne nouvelle. Au Royaume-Uni, 41 nouvelles zones de conservation marine ont été créées afin de protéger la faune, comme les requins pèlerins, les homards et les hippocampes, concernant une zone près de 12 000 km², soit près de 8 fois la taille de Londres. Avant cette décision, les pays protégeaient déjà près de 30% de ces mers.
Wow.
Attendez, j'ai aussi entendu parler en Colombie-Britannique. Les chercheurs de CWR, de recherche des baleines, ont confirmé la naissance d'un bébé orque dans la petite population des orques résidentes du sud, composée de seulement 75 individus. C'est la seconde naissance pour cette population en 2019, offrant une lueur d'espoir pour les orques résidentes du sud.
Oui, maintenant que vous le dites, moi aussi j'ai une bonne nouvelle. En Europe, une opération du nom de Blizzard menée sur l'ensemble du continent a permis de secourir plus de 4400 reptiles du commerce illégal. Plus de 2000 tortues, 1059 serpents, beaucoup de lézards, 20 crocodiles et alligators. Elle a réuni 22 pays et a débouché sur 12 arrestations.
Et vous avez entendu, au Canada, le plastique à usage unique va être interdit d'ici 2021.
Oui, le Premier ministre invite également les fabricants de plastique.
Et les entreprises à se doter d'un plan de recyclage.
Oui, mais seulement 10% de plastique sont actuellement recyclés dans le pays.
Bon, bah allez, salut. Merci de m'avoir remonté le moral.
Allez, salut.
Salut.
Moi, j'ai pas que ça à faire.
On a travaillé pendant 6 séances du coup avec le collège Vauquelin sur la question du changement climatique, de la biodiversité, enfin voilà, de l'écologie en règle générale. À votre avis, vous les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour la planète? C'est quoi du coup ce qui en est ressorti?
Je pense que c'est important de tous faire quelque chose au moins à notre échelle et de pas penser que ce qu'on fait c'est inutile et que ça aidera pas le mouvement. Au contraire, c'est très utile ce qu'on fait, au moins à notre échelle. Par exemple au collège, qu'on recycle les déchets. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on vient juste de commencer. Avant, tout était mélangé. Cette année, maintenant, tout est trié. Donc, c'est beaucoup mieux. C'est déjà un début.
Si chacun fait une petite chose de son côté, ça deviendra grand.
Je pense aussi, même en parler aux gens, commencer à dire ce qui se passe, les choses bien comme pas bien, pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, même pour le futur.
Ouais, faut essayer de faire de la sensibilisation, même déjà à l'échelle de sa famille, en parler, vu qu'on vit dans notre maison, donc on a un peu un pouvoir sur ça, donc on peut essayer d'agir à cette échelle-là, je pense que ça peut être bien.
Et aussi qu'il faudrait pratiquer le zéro déchet.
Fabriquer son shampoing solide, fabriquer son dentifrice, utiliser une brosse à dents qui pollue pas, utiliser des dentifrices sans fluor, car le fluor est un composé chimique très dangereux.
Comment on fabrique un dentifrice?
On peut aller voir sur la maison du zéro déchet, sur internet, et il y a plein de recettes, on peut trouver plein de choses faciles.
Et des recettes qui se font avec des produits de la maison, comme, je sais plus, mais... Du
bicarbonate.
Oui, c'est ça, du bicarbonate, déjà, c'est
ouais,
très bon, le charbon.
On peut déjà éviter d'utiliser les couvercles en plastique et tout ça, tout ce qui est plastique.
Comme par exemple des gâteaux, parce que ça, on peut acheter directement une boîte là où il y a déjà tous les gâteaux dedans, pas acheter des boîtes avec plein de sachets de gâteaux dedans, parce que ça a juste du plastique pour rien.
Mais même au collège, je sais pas si vous avez remarqué, mais avant, tout était servi dans des petites coupelles en plastique, et maintenant beaucoup moins, c'est pratiquement tout en verre, mais comme on nous disait, ils sont en train d'épuiser les stocks, puisqu'ils en ont déjà encore plein. Mais du coup, c'est bien, parce que même le collège, il commence à agir, et même à la fin des repas, par exemple, on doit trier dans notre plateau ce qu'on doit mettre, les déchets, etc. Donc c'est le pain, c'est assez intéressant, je trouve.
Après, il y a l'action des éco-délégués aussi qui est bien de l'avoir fait cette année dans collège, lycée. Ça permet de voilà, justement, de faire un peu comme Youth for Climate, de que les jeunes aussi peuvent recycler et s'intéresser au climat.
Participer.
Alors, pour aller dans le même sens de tout ce qui vient d'être dit, moi, je voulais vous proposer un slogan qui est très, très court. On appelle ça les 4 R, la lettre R. Les 4 R, qu'est-ce que c'est? C'est réduire. C'est-à-dire, je réduis les emballages, c'est sur-emballage dont vous parliez. Je réduis ma consommation, ça s'appelle réduire. La deuxième chose, c'est réparer. C'est-à-dire que quand un truc est cassé, je le répare. D'abord, c'est rigolo de réparer. Ça pose des questions, ça vous demande d'aller chercher le tournevis, le scotch, peu importe comment vous débrouillez, vous le réparez. Et si vous ne savez pas le réparer, vous le réparerez avec quelqu'un qui sait, qui va vous apprendre. Et c'est sympathique, ce n'est pas un ennui, c'est agréable. C'est des choses agréables à faire. Donc, je réduis, je répare. Et si après avoir essayé de réduire et de réparer, j'y arrive toujours pas, je réemploie. Le réemploi, qu'est-ce que c'est? C'est un détournement des objets. Par exemple, là, ça va être Noël. Plutôt que d'avoir plein de papier cadeaux, vous avez peut-être à la maison des cartes routières. C'est avant d'utiliser les GPS des téléphones. Ces cartes routières, vous en avez plein. Elles sont plus valables parce qu'il n'y a plus la dernière autoroute qui est dessus, le dernier chemin qui n'y est plus. Et ces cartes, c'est joli. Vous pouvez l'utiliser comme papier cadeau. Et dessus, vous pouvez le relooker. Vous pouvez dessiner dessus et le personnaliser. Votre papier cadeau, il aura vraiment de la gueule. Il signifiera quelque chose. Vous pourrez dire, tiens, ça, c'est les vacances que j'ai passées avec papy et mamie. Ou avec mon meilleur copain, on était au fin fond de l'Auvergne, ou je ne sais quoi, parce que ça sera cette carte routière que vous aurez réemployée. C'est un autre emploi, vous pouvez aller à Emmaüs. À Emmaüs, vous avez besoin d'une petite table pour votre chambre. Peut-être que la petite table que vous avez trouvée, vous allez la trouver un peu moche, vous allez la trouver un peu bancale, c'est pas grave, vous allez la nettoyer, lui coller un coup de peinture, lui faire des dessins, y mettre des photos. Donc c'est pas ennuyeux de faire ça, c'est original au contraire, c'est vous. Vous affirmez ce que vous êtes personnellement. Au lieu d'avoir un objet standardisé, ça sera le vôtre. Et donc ça, c'est le réemploi. Et le dernier, c'est quand j'ai fait tout ça, il m'en reste encore et donc il faut recycler. Recycler, c'est ce que l'un de vous a dit, c'est mettre dans les bonnes poubelles, recycler au collège. Donc les 4 R, c'est facile à retenir. 4 fois la lettre R et ça vous donne un petit schéma par rapport aux déchets.
Non mais je suis d'accord avec ce que vous dites, mais pour par exemple les trucs de friperie ou de... Ouais.
Et en plus c'est pas cher.
Oui, sauf qu'en fait, on est dans une génération aussi où c'est très très important l'image. Donc par exemple, si moi j'arrive avec... je sais pas, quelque chose de... Enfin, j'arrive pas à vous expliquer, mais par exemple, on doit toujours être bien habillé avec le dernier modèle de chaussures, le dernier modèle de pull, etc. Donc en fait, c'est sûr, on peut toujours parler, mais c'est assez difficile en 2019 de se dire, je vais sacrifier le style pour être écologique, enfin voilà.
Bah. Peut-être que c'est de laisser la place à l'originalité. Je pense que vous êtes à un âge où il est difficile d'être soi-même. C'est-à-dire, pour pouvoir exister, pour avoir des copains, vous avez besoin de vous conformer, d'être conforme à un modèle qui est autour de vous. Mais il n'y a pas que vous, les adultes aussi sont des conformistes. La plupart des gens qui achètent une voiture, pourquoi ils achètent ce modèle-là? Parce que le voisin a la même. Donc le conformisme n'est pas que dans votre génération, c'est un trait général. Alias, ce que vous venez de dire, c'est simplement que c'est difficile d'être soi-même dans son originalité. Donc dans un premier temps, peut-être qu'il faut se conformer à ce que sont les autres. Donc on commence par se conformer, suivre le même modèle dans un premier temps, parce qu'on en a besoin, ça s'assurera d'avoir plutôt des copains.
Mais est-ce qu'on a le temps,
des bonnes relations? Ah, on a tout le temps. Vous avez la vie devant vous. Bien sûr, vous avez le temps. Votre vie, elle commence, hein. Il y a du chemin. Ça va faire son chemin petit à petit. Ça, moi, ce que je viens de vous dire, ça va rester dans un petit coin, vous n'en ferez rien dans un premier temps. Puis un jour, vous allez croiser une copine, puis vous allez vous dire, ah ben alors celle-là, elle assure, elle n'est pas comme les autres. Et ça va se construire progressivement. Donc votre question, elle est tout à fait valable, moi je la comprends. Et bien on se conforme aux autres. Et puis on garde dans un coin de la tête que ça ne sera peut-être pas toujours comme ça. Mais pour le moment, c'est comme ça. Pourquoi pas? La vie, c'est un processus, hein.
Comme on peut dire aussi, c'est que la vie des gens compte beaucoup maintenant. On se soucie surtout de ce que les gens vont dire, de notre personnalité, de ce qu'on fait, de nos gestes. Et il y a plein de gens qui se disent, quand tu recycles, c'est que tu n'aimes pas le monde là où on vit, etc. Mais en fait, c'est juste pour améliorer le monde là où on vit qu'on fait ça, mais il y en a qui ne comprennent pas.
Je pense qu'en fait, tout ça, tout ce qui est sur le fait d'avoir un mauvais avis sur ce que c'est recycler, ce que c'est réutiliser, aller dans les friperies, faire tout ça. C'est beaucoup des préjugés qu'on a vis-à-vis de l'écologie et qu'il faudrait briser. C'est surtout pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements qui interviennent et tout ça. C'est pour briser les préjugés, pour montrer que non, si on recycle, être écolo, c'est pas juste mettre le bon déchet dans la même poubelle. On peut être écolo et vivre normalement. Si on réduit les déchets, on passe pas sa vie à recycler, à perdre du temps. On achète responsablement, qu'on achète des choses qui vont durer longtemps, par exemple. On va pas être tout le temps en train d'acheter un nouveau pull, en train de racheter quelque chose de neuf. on va garder les objets longtemps et on va être plus raisonné en fait. Moins on a de préjugés, plus on sera dans cette action-là qui est intelligente.
Après, il y en a qui disent que par exemple d'acheter une bouteille en dur, ça coûte cher, mais d'acheter beaucoup de bouteilles en plastique, ça coûte pas cher d'acheter une bouteille en plastique. Mais au fur et à mesure, on en achète, ça coûtera autant que d'acheter une bouteille en dur, et pourtant, acheter une bouteille en dur, ça polluera moins.
Moi, je trouve que ce qui est bien de nos jours, c'est que... on a plein d'idées, par exemple, si on a des bouteilles en plastique, par exemple, on a tous déjà acheté une bouteille en plastique, on peut la réutiliser, faire plein d'autres choses avec, enfin, on peut donner des nouvelles vies à des objets qu'on ne savait pas, parce que maintenant, il y a plein de tutoriels sur plein de sites, enfin, c'est vraiment bien organisé.
Après, en plus, aussi, en 2019, on a les réseaux sociaux, donc c'est plus facile aussi de faire passer un message. Moi, je vois plein de vidéos de manifestations ou des posts, qui ont des milliers de likes, en fait. Du coup, ça touche plus les personnes parce que bah, tout le monde, pratiquement, a Instagram et, ou même Snapchat et Twitter, etc. Et du coup, je trouve ça assez intéressant aussi que bah, on utilise tous les moyens de fonctionner. Donc, on utilise les moyens donc, dans la rue et aussi les réseaux sociaux. Je trouve ça assez intéressant.
Puis aussi, je trouve que c'est bien parce que du coup, c'est tout le monde. C'est pas, par exemple, qu'au niveau de la France, c'est vraiment mondial, les réseaux sociaux. Du coup, ben, rien que Greta Thunberg, ben, elle est connue aussi grâce aux réseaux sociaux, grâce à ses photos, à ses discours.
Comme je suis la personne âgée, moi ici, je voudrais quand même dire un truc, c'est que sans réseaux sociaux, les gens ont toujours connu un internationalisme. Ça, même au 19e siècle, il y avait des mouvements internationalistes qui réussissaient à échanger de pays à pays, bien qu'il n'y ait pas le téléphone et il n'y ait pas tous ces réseaux sociaux non plus. Donc quand les humains veulent communiquer les uns avec les autres au niveau planétaire, c'est faisable. Ça, quand on veut, on peut. On est dans le niveau du désir. C'est qu'est-ce que je désire profondément? Je désire une société juste, vivable, sur une planète vivable. Souvent, vous parlez de la planète, mais moi, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que la planète, elle s'en fout de nous. La planète, elle peut vivre sans les humains, mais nous, on ne peut pas vivre sans la planète. C'est pas réciproque. Donc, la planète, elle peut continuer à vivre avec des séismes et des incendies. Il y aura moins d'animaux, il n'y aura plus d'humains. Pourquoi pas? La planète, elle existera. Mais si nous, les humains, nous voulons réussir à vivre intelligemment, sans tyrannie dans notre rapport les uns aux autres, c'est important qu'on le réfléchisse ensemble.
Après, aussi, c'est vrai... Ce que vous dites, parce que aussi, quelque part, en utilisant les réseaux sociaux, ça pollue un peu plus, ça pollue un petit peu, et à beaucoup utiliser. Donc, quelque part, on fait un bien pour un mal. C'est confus.
Un mal pour un bien.
Oui, un mal pour un bien.
Je dirais qu'en fait, c'est un peu l'avancée vers l'inconnu qui fait que des choses arrivent, parce que du coup, comme elle disait, quand on change de manière de vivre, du coup on avance un peu vers l'inconnu, on sait pas ce qui va se passer plus tard, on sait pas comment les gens vont réagir, et du coup c'est toujours difficile d'agir d'une manière où tout le monde sera d'accord, parce que tout le monde est habitué à quelque chose et on a peur de sortir de nos habitudes.
Merci à tous.
De rien.
En tout cas.
Merci à vous.
Merci d'être venu à notre émission et avoir répondu à nos questions, même si il y en avait un peu beaucoup.
Eh ben merci de nous avoir aidés à diffuser nos idées et à les avoir échangées. C'est une chance aussi pour nous.
Merci de nous donner la parole.
D'avoir fait connaissance.
Ça nous aide à apprendre un peu plus aussi sur le climat, l'écologie. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre émission sur le site www.radiomonpais.fr. Nous vous laissons sur la 90.1. Sur ce, ciao ciao!
Ado écolo, la planète face au micro.
Ado écolo,
la planète face au micro.
Ado écolo,
la planète face au micro.
La planète face au micro.